Bonsoir à toutes et à tous, un nouveau numéro de Wagon Livre ce soir sur Radion, comme chaque mercredi, c'est votre émission littéraire. Deuxième et dernière partie de l'entretien enregistré avec Denis Seznec au mois de mars dernier lors du Salon du Livre de la Chapelle Saint-André dans la Nièvre. Retour effectivement sur une des plus énigmatiques affaires judiciaires du XXe siècle. Effectivement, je redonne quelques petits éléments pour resituer cette célèbre et terrible affaire Seznec qui débute en Bretagne en 1923. Guillaume Seznec possède une scierie et c'est en souhaitant acheter un camion qu'il découvre un trafic d'achat et de revente de stock américain. Il fait alors la connaissance de Pierre Kemener, 45 ans, vendeur de bois et promis à une belle carrière politique. Pierre Kemener est conseiller général du Finistère et il est amené à devenir député. Les deux hommes sympathisent et décident de faire affaire ensemble autour de surplus des stocks américains de voitures de marque Cadillac. Certaines seraient même vendues à la Russie des Soviets. Pierre Kemener vend son domaine de Traounez à Guillaume Seznec le 22 mai 1923. Et le 24 mai 1923, Guillaume Seznec, à bord d'une Cadillac, prend la route de Rennes où il a rendez-vous avec Pierre Kemener. Les deux hommes vont en effet présenter la Cadillac comme échantillon à un certain Guerdy. Kemener disparaît et sa disparition est signalée par sa famille le 13 juin 1923. Immédiatement, Guillaume Seznec est soupçonné d'avoir assassiné le conseiller général alors qu'il n'y a ni cadavre, ni témoin, ni arme du crime, ni indice sur la façon dont il aurait été perpétré et aussi il n'y a pas d'aveu. C'est donc le début de l'affaire Seznec, nous en avons largement parlé mercredi dernier dans Wagon Livre. Et ce soir, au cours de cette deuxième partie, Denis Seznec revient sur les conditions de vie au bagne, puisque Guillaume Seznec va être condamné aux travaux forcés à perpétuité au bagne de Guyane. Le bagne de Guyane où l'on pouvait s'y retrouver finalement pour parfois de simples mauvaises actions.
Ah oui, parce que pour un vol de brouette, on pouvait être condamné à 5 ans de bagne. Un vol de brouette. Vous dites ça à un jeune maintenant, mais le type, il hallucine. Il vole un camion et il va pas faire une journée. Enfin, j'exagère un poil. Mais c'était ce qu'on appelait la règle, la relégation, que les Américains imitent. C'est une invention française. Je vous le dis parce que c'est en cours et la majorité des États américains l'appliquent maintenant. Il suffit de 3 peines de plus de 3 mois de prison dans les 10 ans et vous deviez faire 50 bagnes. Moyenne de vie 4 ans. Alors, actuellement, aux États-Unis, actuellement, il y a quelques années, il y a par exemple un black, je fais exprès de le dire parce que c'est une image, un black qui a volé un téléviseur noir et blanc. Excusez-moi, mais je savais même pas que ça existait encore. Il a volé un, mais comme c'était le troisième délit, il s'est retrouvé avec 25 ans de prison ferme pour un téléviseur noir et blanc.
Alors, revenons à votre grand-père au bagne.
Oh, pardon, excusez-moi.
S'il vous plaît. Oui. Alors, il aurait côtoyé Henri Charrière.
Oui, enfin, Charrière le raconte dans son livre. Ouais, le raconte dans son livre. Moi, je mets en doute quand même, parce que mon grand-père, c'était pas le genre. Il l'a croisé sûrement, mais fréquenté sûrement pas. Parce
donc,
que
Henri Charrière, c'est un ancien proxénète. Hein. Mais ouais, votre grand-père, il avait le respect des femmes. Hein. Il est très généreux au bagne. Apparemment, peu qu'il a, il le partage avec ses compagnons d'infortune.
Et d'ailleurs, il y a un sondage d'opinion inventé. Ça a été inventé à l'occasion du bagne par Albert Londres. Ils ont fait un sondage d'opinion demandant aux lecteurs d'une revue qui était moderne à l'époque, qui a toujours le même titre, mais qui n'a plus rien à voir. C'était l'Express de l'époque, c'était Détective. Et c'était Gallimard qui l'avait, vous voyez, avec
Joseph Kessel.
Vous voyez que c'était des grands noms. Ils ont inventé le sondage d'opinion. Et ils ont demandé aux lecteurs de voter pour des bagnards dont ils exposaient le cas. Il y en avait une vingtaine, je crois, une quinzaine, et dont il y avait Seznec, entre autres. Et ils ont demandé de voter. Et ils s'engageaient, Albert Londres, ils s'engageaient. Le type qui arrivera en tête, le bagnard en tête, a demandé sa grâce au président de la République de l'époque, président du Conseil de l'époque. Et mon grand-père est arrivé deuxième ex aequo. Ex-aequo, c'était deux. Hein. Et le premier, c'était un véritable assassin. Alors lui, il n'a pas contesté, il n'était pas innocent du tout. Mais il est devenu tellement extraordinaire au bagne, il est devenu une sorte de curé, de saint, que les gens étaient très touchés par son parcours. Et c'est lui qui a été gracié. Et mon grand-père était deuxième, ex-aequo.
Alors au bagne, ouais. Votre grand-père,
il aurait pu être gracié.
Il tient le choc au bagne.
Oui, alors, à mon avis, il y a deux éléments.
Votre grand-père, c'est un homme de 45, 46 ans.
49 ans.
49 ans.
Il arrive à 49 ans. Il échappe à l'homosexualité peu ragoûtante là-bas au bagne, viol et tout. Hein. 49 ans, on n'est plus de la chair fraîche, hein, comme on dit. L'autre élément, c'est qu'on l'envoie dans les îles du salut, les îles du diable, où le climat est favorable. Il n'y a pas de tarentules, pas de serpents, des choses comme ça. Et ce qui fait que là, il y a 500 bagnards les plus connus, les plus célèbres, se contenter de s'évader. Et mon grand-père, c'est la célébrité du bagne.
Mais votre grand-père, il se serait évadé.
Non, il a tenté.
Il a tenté.
Oui, il s'est une fois à Saint-Laurent, tout au début, avec le docteur Bougra, et avec 19 bagnards, et c'est le seul que le gouvernement a réclamé et qui a été restitué au bout de 3 mois.
Et vous, Denis Cesnec, lorsque vous allez au bagne, pour la première fois, voir lieu où ce grand-père que vous avez connu enfant a passé un tiers de son existence, vous êtes complètement ému.
C'était en 87, et je suis tombé sur une équipe de cinéastes, c'était un hasard, hein. Richard Berry, tout ça.
Oui, donc c'était le futur film de Yves Boisset.
Non, c'était un autre.
Ah oui, c'était Cayenne, je crois.
Cayenne Palace.
C'est ça.
Ouais, c'était un bon film, voilà. Je suis tombé dessus par hasard. Hein. Ils étaient en plein tournage. Je venais en pèlerinage, en quelque sorte. Et je me suis même trompé au début. J'ai mis une Vierge de Bretagne et une plaque sur le phare jusqu'au jour.
Le sémaphore dont s'occupait
votre grand-père. Et c'était le sémaphore, oui. Mais je m'étais trompé, j'avais mis sur le phare au début. Et ce qui est marrant, c'est que maintenant je peux réveiller à prescription. Il y avait des Lorientais qui étaient là. Alors bien sûr, en Bretagne, je vous raconte pas l'affaire Cesnec. Hein. Et parmi les personnalités qui étaient là, il y avait le type qui construisait les prisons pas chères de Chalandon. Et il m'a aidé à mettre la plaque. Non, c'est le type qui m'a dit surtout pourvu que ça se sache pas. Mais maintenant, il y a prescription, on peut en parler. Hein.
Donc cette plaque, elle y est toujours.
Maintenant, oui, je l'ai déplacée parce que après, je l'ai mise sur le sémaphore. Mais il m'a aidé à le mettre sur le phare, lui. Parce qu'on s'est trompé, et quand on s'est rendu compte que le phare était contre en 34, c'était pas possible. Donc on a tout décollé avec du ciment prise rapide, hein, et on l'a remis sur le sémaphore que j'ai dû dégager à la machette.
La végétation ayant tout envahi, recouvert.
J'étais même piqué par des mouches à feu, on appelle ça des mouches à feu, c'est des sortes de super guêpes qui m'ont... C'est terrible, d'une piqûre, c'est la fièvre tout de suite. Hein.
Mais avez-vous vu la cellule du capitaine Dreyfus ?
Non, alors Dreyfus, non, j'y ai été, mais c'est à l'île du Diable, c'est interdit, totalement interdit. Mais comme le centre spatial soutient en gros mon combat, à l'époque, le patron m'avait prêté, façon de parler...
Un hélicoptère ?
Son hélicoptère. Oui, oui, oui. Donc j'ai été et suivi par un caméraman de Kappa Productions. Et les autres sont restés dans les autres îles parce qu'ils ne pouvaient pas emmener trop de monde. Hélicoptère avec interdit... C'est interdit les hélicoptères, sauf le patron et la Légion, bien sûr.
Et pourquoi ? Pour des raisons de sécurité ?
De sécurité, oui, parce que
de protection
s'il tombe dans la jungle, on ne le retrouve pas. C'est pire que l'océan. Alors, il faut le savoir, hein. C'est terrible. Un hélicoptère, un avion qui tombe dans la forêt, dans la jungle, on ne le retrouvera jamais. C'est jamais arrivé, d'ailleurs. Ah oui, sauf si c'est des flammes et encore de la fumée. C'est un océan, la jungle, là-bas. Bon, mais pour les îles, quand on m'a déposé avec un caméraman et le pilote, bien sûr, qui était son dernier jour, entre parenthèses, eh bien, il avait interdiction de s'arrêter, parce qu'on ne pouvait pas le dépanner. Donc, il dépose et il repart. Il revient vous chercher. Et donc, la cellule de Dreyfus, oui, je l'ai visitée. Et à l'époque, maintenant, je peux vous le dire, parce que maintenant, il y a prescription aussi, c'était un secret d'État, parce que François Mitterrand, président de la République, devait inaugurer pour l'affaire Dreyfus. Alors, secrètement, les légionnaires la remettaient en état. Et donc, j'ai visité, et à l'époque, on m'avait dit surtout de me taire, de ne pas en parler, parce que c'était un secret d'État, en quelque sorte. Bon, sauf qu'entre-temps, Mitterrand est mort, les choses ne se sont pas faites. Alors, cette cellule, elle est coupée en deux. Avec Dreyfus était d'un côté et avec un mur de 2,70 m autour.
Donc Dreyfus n'avait
il voyait pas la mer.
Et donc il y avait une grille devant lui. Il était gardé par deux soldats qui ne devaient pas lui parler.
12 gardiens. 4 par 4.
Pour le seul.
À mon avis, avec humour un peu provoque, je dis pour la belote. Et ils avaient interdiction de lui parler. Il y en a qu'un en 4 ans qui va lui dire une seule parole, mais vite comme ça, hein, pendant qu'il le croise, et dit quelqu'un s'occupe de vous en France. C'était Émile Zola. Mais s'il n'avait pas fait ça, il devenait fou, parce que ses écrits, ils avaient un régime un peu spécial, les politiques. Hein. Ils étaient 12 du temps de mon grand-père. Ils avaient une maison individuelle, ben, Dreyfus, mais ils étaient isolés, la plupart se suicidaient. Et il y en a un qui était devenu fou, il portait des pierres par exemple, d'un bout de l'île, et il les portait toute la journée, il portait des pierres à l'autre bout, 600 mètres. Hein, parce qu'il espérait combler entre l'île et la France, combler l'Atlantique.
Hein. Et votre grand-père a essayé de construire un petit bateau.
Ah oui, mais alors lui, il y a l'île Royale, mais lui, pour s'évader. Mais la folie, à mon avis, on devient zinzin quand même. Il avait 53 ans, et il a construit... Alors d'abord, ça montre la classe de mon grand-père. Il a construit la chaloupe comme en forme de... C'est un WC en forme de chaloupe, mais il a attendu que son gardien Pinelli, un Corse, soit absent. Il avait une permission de 6 mois tous les 2 ans. Parce qu'il faut savoir qu'il perdait des mois de sol si un bagnard tentait de s'évader quand ils étaient de là. Alors donc, vous voyez, la classe de mon grand-père, il a attendu que son gardien soit absent. Et alors, ce que j'aime bien, maintenant je vous le révèle, parce que moi j'ai vu les archives, les cahiers secrets de mon grand-père, vous savez, il écrivait secrètement, et j'ai vu les rapports, j'ai vu les deux en fait. C'est extraordinaire de voir les deux pour les mêmes événements. Et il y a un journaliste notamment qui s'appelait Marius Larrigue, un grand journaliste qui n'est pas aussi connu de la Berlande, mais c'est un grand journaliste. Il y avait un bateau par mois qui partait de Cayenne. Et il y a le gouverneur de Guyane qui lui dit « Serez vous, je ne partirai pas parce qu'il va y avoir une évasion retentissante d'un peu de temps. » Le journaliste lui dit « Mais qui ?» Il dit « Ah non, je ne peux pas vous le dire, mais on est en train de le surveiller et il va tenter de s'évader. » C'était mon grand-père. Hein. Et le journaliste raconte dans les revues de genre détective, et raconte que effectivement, ça serait pas petit, j'en parle dans mon livre, elle sera retentissante, c'est Cessnec. Et les gardiens savaient qu'il a laissé, il avait été donné en fait, hein. Mais ils savaient pas où il avait mis sa chaloupe. Alors ils allaient dans les WC, non mais c'est obligé de me marrer, ben, ils allaient faire leurs besoins dans le WC, et en fait ils savaient pas la chaloupe qu'ils cherchaient partout discrètement, parce qu'il fallait pas que ça, hein, il la cherchait pendant des mois, ils savaient pas qu'ils allaient dans les toilettes. Mon grand-père avait, alors quand il l'a mis à l'eau...
C'était astucieux, effectivement.
Oui, c'était astucieux, mais il était...
Et drôle après coup.
Ben oui, alors la folie, c'est qu'à 53 ans, il voulait traverser l'Atlantique. Il aurait été mieux que d'Abbeville. C'est complètement absurde.
Maintenant, Denis Cesnec, vous auriez pu vous retrouver peut-être avec toute la famille en Guyane, parce qu'en mai 1936, Léon Blum, qui est président du Conseil, donc ce qui est l'équivalent...
Bon, j'étais pas né, donc...
N'étiez pas né, oui.
Moi, j'étais pas né, mais effectivement, Léon Blum, en personne, donc le garde des Sceaux...
Donc, il propose une concession agricole, ouais, à condition...
Que toute la famille
rejoigne Guillaume Cesnec en Guyane.
C'est pas mal. Ça donne l'impression aux gens qu'on fait une mesure de grâce. Mais on lui donne une concession agricole. Alors les gens, ils doivent s'imaginer avec une petite vache, du lait, vous voyez, du blé. C'est pas vrai. Il n'y a rien qui pousse là-bas. Hein. Donc c'est très dur. Et à condition que... Alors ma mère, ma tante Marie est morte déjà au Carmel. Alors ma mère, ben, elle aurait fait... Si j'étais né, mais c'est absurde, après. J'aurais joué de la pirogue ou de... Enfin, de la sarbacane ou je sais pas quoi.
Vous n'auriez pas tourné les pages de l'organiste Pierre Cochereau à Notre-Dame?
Ah non. J'aurais pas été petit chanteur. Hein. Thank you.
Le 2 février 1946, votre grand-père, Guillaume Sesnec, est gracié par le général de Gaulle. Bon, le président de la République.
Officiellement, c'est pour bonne conduite. Mais ce n'est pas vrai. C'est bonne conduite, il n'y a pas bonne conduite. Mais il fallait un prétexte. On commence à peine en 20 ans.
Au bagne, on leur fait faire des choses stupides, ah, mais, comme vraiment des activités ridicules, stupides,
les occuper.
Abétissantes et à rendre fou. Hein. Oui, couper l'herbe entre les cailloux, par exemple.
Oui, absolument.
Entre les petits pavés.
Alors qu'il suffisait de mettre de l'eau de mer, par exemple, au salé, puis il ne pousse plus d'herbe. Non.
Oui, on les coupe. La chaleur, elle se
on les coupe. On les coupe avec des engins qui ne sont pas pointus, parce qu'on ne veut pas que. C'est absurde. Le bagne, et encore mon grand-père n'a pas connu le camp des Incos. Que je publie, parce que là, c'est choquant. Le camp des Incos, c'est les incorrigibles, le camp de Charvin, que les gardiens avaient surnommé le Terminus, et les bagnards, le camp de la mort. Moyenne de vie, 6 mois. Ils sont complètement nus, en pleine jungle, pour pas qu'ils s'évadent. Il y a plein d'absurdités. Les chasseurs de primes, que je révèle, parce que j'ignorais moi-même, une unique photo, les chasseurs de primes. C'est-à-dire quand il y a un bagnard évadé, ou une cavale, c'est une série de bagnards, on lance à leur poursuite des Indiens ou des anciens gardiens avec des chiens, et même prime, mort ou vif, donc ils coupent la tête. Et l'unique photo, je la publie. Je l'ai donnée aux Américains parce que c'est un reporter américain qui les brandit, et ils m'ont donné d'autres photos. Alors ça, c'est dans le...
C'est dans donc l'affaire Sesnec en photo, des assises au bagne, chez Robert Laffont.
Il y a une partie des photos sont interdites pendant 120 ans. Soi-disant pour protéger la réputation des familles. Bien sûr, regardez, je vais vous dire une chose par hasard, qui est la moins choquante, parce qu'il y a d'autres trucs, des photos très choquantes. Les têtes de guillotinés conservées dans le formol, je les publie. Hein. Mais par exemple, les femmes bagnardes, la plupart des gens, demandez à n'importe qui, ils ne savent pas qu'il y a eu des femmes bagnardes.
Il y a Louise Michel, c'est la plus connue.
Oui, en Calédonie, c'est la plus connue. Elle est restée 20 ans ou 30 ans, et ça a duré 30 ans là-bas. Bon, je ne dis pas que la Calédonie, c'était le Club Med, hein, mais ce n'était pas du tout la Guyane. C'était une mortalité. Il y avait 1040 femmes bagnardes. Sauf que là-bas, ils ont voulu faire comme les Anglais avec l'Australie. Ils ont dit aux bagnards qu'ils leur enverraient des femmes. Pour repeupler la Guyane. Ben oui, c'est absolument.
Denis Sesnec.
Alors qu'en Guyane, il y a eu des femmes, mais c'est jusqu'en 1904, mais c'est complètement absurde. Pour les îles, mon grand-père, elle a survécu parce que le climat est bon, mais on ne peut pas s'évader. Il y en a qu'un, d'ailleurs, il y en a qu'un dont le nom est connu, c'est Steve McQueen.
C'est Papillon, ben c'est, oui.
Steve McQueen, c'est le seul qui s'évade. Les autres, non, c'est du bidon. Il y a les requins autour et on ne peut pas s'évader.
Alors, votre grand-père revient en France en juillet 47. Mm-hmm. Votre frère Bernard a 4 ans et vous êtes un bébé, Denis.
Moi, je viens juste de naître.
Vous êtes
mon parrain.
Il devient votre parrain.
C'est mon parrain. Mon deuxième prénom, c'est Guillaume. Mon troisième prénom, c'est Marie, le prénom de ma grand-mère.
Alors, évidemment, vous l'avez bien connu, ce grand-père. Vous dites... revanche, ça m'embête d'en parler avec vous, mais vous en parlez dans le livre. C'est le drame à l'intérieur du drame, c'est-à-dire ce 3 octobre 1948.
J'essaie de faire court parce que ça risque d'être long.
Court, mais...
Très court. C'est-à-dire qu'il y a 5 témoins de survie au total. 3 connus au moment du procès. Un des 3, non seulement il a vu Kemner vivant après sa mort supposée, ça innocente mon grand-père, les 3 d'ailleurs, mais surtout lui, parce que non seulement il l'a vu, mais il lui a parlé. Il lui a parlé le lendemain de sa mort supposée. C'est innocent de mon grand-père. C'est le bon témoin de la défense, le grand témoin. Malheureusement, ce témoin, on va découvrir beaucoup plus tard, il va être assassiné le 3 octobre 48. On va découvrir...
C'est votre père.
Ah, c'est mon père.
Il faut dire, c'est François Leher.
Oui, voilà. Ma mère,
c'est votre papa.
Ma mère va assister à plein de meetings. Il y a des meetings dans toute la France, des milliers de personnes. Elle rencontre, entre autres, ce personnage qui s'appelle Leher. Et qui, elle le prend pour... il aura 4 enfants, dont je suis le dernier. Il fréquente ma mère, qui est Jeanne Sesnec, la fille cadette de mon grand-père. Mon grand-père, quand il revient du bagne, on sent que le courant passe pas très bien. Parce que ce témoin, il a été le faux bon témoin. C'est-à-dire que c'était un vrai témoin de survie, c'est innocent, c'est mon grand-père. Mais pendant 1 ou 2 jours, d'ailleurs la presse en parle, il va être dégommé, mais sali par des témoins de moralité que la police fournit. Qu'est-ce qu'on va découvrir après son assassinat ?
On lui a donné
une pension d'aveugle militaire, alors qu'il a permis de chasse, permis de conduire et permis de port d'armes après. Mm-hmm. Faut le faire quand même, pour un aveugle. 100% artilliste. Et on lui donne cette pension militaire le jour où il est appelé à la barre. Donc, c'est mon grand-père ou ma mère, vis-à-vis de ce témoin, ils se disent qu'est-ce que c'est que ce personnage ? Et c'est un type qui se laisse salir, qui qui fait dégringoler toute la défense, parce que c'est un faux bon témoin, c'est un bon témoin. Avec lui, il n'y avait même pas d'inculpation, d'ailleurs. Mais malheureusement, ce type, il se fait salir. Il passe pour un menteur, il passe pour un baratineur, il passe pour tout ce que vous voulez. Il est sali. D'ailleurs, il y a même des journaux qui marrant, c'est plus le procès Cessnec ni Kemner, c'est le procès Le Haire. Vous voyez, ça dure presque 2 jours.
Et vous écrivez...
Et lui, imperturbable, il encaisse tout. C'est pas le genre de type à encaisser. Hein.
En parlant de votre père, François Le Haire, vous écrivez « C'est mon père sans être mon père, non, et puis mon grand-père l'a tellement mieux remplacé auprès de moi. »
Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Moi, je ne l'ai pas connu. Donc, il a été assassiné. C'est un des 23 qui ont disparu, assassinés ou suicidés. Et à mon avis, il en savait sûrement beaucoup plus que je peux l'imaginer. Il y a une question que je suis incapable de répondre et qui malheureusement restera sans réponse. Est-ce qu'il a fréquenté ma mère pour mieux la contrôler, ou est-ce que ma mère l'a fréquenté pour mieux savoir ce qu'il y avait derrière? On ne saura jamais.
Ceci dit, votre maman passe quand même en procès.
C'est son seul homme.
Elle sera acquittée.
Elle s'accusera de l'avoir assassinée.
On peut comprendre quand même Denis Cézinec, peut-être. C'est le bon témoin. Ce drame, on a l'impression quand même que la famille Cézinec, on est vraiment dans la tragédie grecque.
Complètement. Mais complètement. Je vais vous dire une chose qui est hallucinante. C'est que le magistrat chargé du rapport de moralité de mon grand-père, là je reviens en 1923, c'est l'ancien amoureux et conduit de ma grand-mère. Mais c'est hallucinant. C'est ce qui me fait dire avec un peu d'humour, parce que c'est l'humour qui me maintient. C'est que dans la famille le jeu des sept familles, la famille pas de bol, c'est nous. Hein. Nous, on n'a vraiment pas eu de bol. On n'a rien. Même le plus grand avocat qu'on a vu à l'époque, enfin mon grand-père avait eu, il rentre au gouvernement. C'est pas possible. De nos jours, ça passerait pas, des trucs comme ça. Et journaliste, heureusement que la presse était là, mais parce qu'ils ont fait des contre-enquêtes, mais la presse à l'époque, elle gobe beaucoup de choses. Elle gobe des trucs. Et les seuls qui vont bien, c'est incroyable, je veux le dire parce que c'est hallucinant. C'est les seuls journalistes qui vont avoir un comportement relativement, qui commence à se dire oulala, ça sent, on nous mène par le bout du nez, c'est des journalistes de l'humanité. À l'époque, c'était un journaliste plutôt socialiste que communiste. Hein. Mais c'est quand même un comble quand on connaît la suite des événements. Vous savez que l'humanité, c'est pas distingué. Enfin, tant pis pour le journaliste de l'humanité qui m'écoute. Mais ils se sont pas distingués par une objectivité extraordinaire, surtout vis-à-vis de l'Union soviétique. Hein. C'est au moins qu'on puisse dire. Mais non, à l'époque, ils ne veulent pas suivre les policiers. On nous mène par le bout du nez. C'est quand même un comble.
Alors, transition.
On gobe.
Transition un peu fantaisiste, vous parlez de nez. Il y a quelque chose que vous n'aimez pas chez votre grand-père, c'est qu'il a la goutte au nez.
Ah oui, c'est le seul défaut que je lui trouve. C'est peut-être trop idéalisé. Oui, probablement. Hein.
Et vous pouvez raconter aux auditeurs cette anecdote de Gaston Monnerlet.
Avec mon frère, parce qu'on était de fratrie. J'étais plus jeune, bien sûr. C'était un petit blondinet, vous voyez. Et mon grand-père, j'étais son filleul. Vous savez, parrain et filleul, c'est très important. En plus, je n'avais pas de père. Moi, je suis le seul à ne pas l'avoir connu, mon père. Enfin, mon père, vous voyez, j'ai du mal à le dire parce que je ne l'ai pas connu. Et ma mère, qui luttait que pour la faire, c'était une forme de couple avec mon grand-père. Puis en plus, moi, il m'adorait, mon grand-père. J'allais dans les rues avec lui, c'était...
Vous êtes l'enfant du destin.
Ah oui, il m'appelait comme ça, l'enfant du destin. En plus, j'ai perdu la parole. Vous voyez que je me suis rattrapé. Hein.
C'est vrai. C'est vrai que vous perdez la parole à certains temps.
Je suis mutique. Mutique, c'est pas autiste. Hein. C'est mutique, c'est-à-dire, on comprend tout. Enfin, maintenant... c'est, comme ça c'est dit, il y en a qui ont les mêmes âges, même problème, c'était Einstein. Alors, c'est flatteur
pour
moi.
Flatteur.
Comme ça, j'ai réglé le problème. Il semblerait que ça développe les facultés d'observation, peut-être. Mon grand-père me comprenait. Quand j'avais faim, vous voyez, parce que j'étais boudeur, hein, comme beaucoup de gamins. Oui, mon grand-père, mon grand-père, c'est mon père psychologique, il n'y a pas de doute. Il a mieux remplacé pour moi. Et la goutte au nez. Ah oui. Alors, on mangeait de la soupe. Enfin, on était pauvres, hein, très pauvres. Hein. On était en 14e, on était très, très pauvres. Quand je vois certains maintenant qui sont très pauvres, mais qui ont la télé quand même. Nous, on n'avait rien. J'ai découvert qu'on mangeait le soir.
Dans les années 50.
Oui, voilà. Tout le monde était à la même enseigne, en fait. Ouais. Mais par exemple, manger un deuxième repas le soir, j'ai découvert ça en pensionnat. Moi, je croyais qu'on faisait un deuxième petit déjeuner le soir. C'était chocolat meunier pour 4 et on faisait pour 6. Et ma mère n'avait même pas de lit parce qu'elle gardait les malades et elle militait pour la faire. Mais mon grand-père avait une goutte au nez. Il a toujours une goutte au nez. Et avec mon frère, on avait qu'une hantise, c'est que ça tombe dans la soupe. Non, mais c'est, vous voyez, le genre de défaut.
Et vous avez un mouchoir?
Oui, de Gaston Monnerville, qui était le président du Sénat, qui en 43, parce que la Guyane était délivrée avant la France, hein, en 43, les Américains ont débarqué, tout ça. Officiellement, c'est la Guyane qui s'est délivrée. Bon. Et Gaston Monnerville a voulu absolument rencontrer mon grand-père, vous voyez, qui avait un acte militant, quelque part, aux îles du Salut. C'était interdit, normalement. Les îles interdites. Et Gaston Monnerville, futur président du Sénat, député de Guyane à l'époque, je crois, je ne me rappelle plus très bien, mais en tout cas déjà un grand personnage. Pour ceux qui veulent le situer, c'était le seul homme coloré.
Un homme de couleur.
De couleur, c'est oui, hein, voilà. Hein. C'était, quand il était président du Sénat, c'était extraordinaire, c'était des années 58. Un défaut non, aux yeux de ma famille, de ma mère et puis de moi, c'est peut-être. Il était anti-gaulliste. Bon. Nous, De Gaulle, il y avait une affection pour une raison toute bête.
On peut comprendre, il avait
gracié. Bah oui, il a gracié mon grand-père, alors donc, etc. Bon, Gaston Monnerville, il faisait partie de la 4ème République, un petit peu, bon, il y a un petit peu de ça. Quand je dis ça, c'est avec affection, hein. Mais il avait un mouchoir à carreaux, gravé GM, brodé, Gaston Monnerville, et il avait vu que mon grand-père avait une goutonnée en 43, et il lui a donné. Et à partir de là, les gardiens ont respecté, parce qu'ils avaient le droit à rien. Mais rien, ils n'avaient pas le droit à rien. Il est respecté une toute petite Bible de rien du tout, mon grand-père avait, qu'on m'a remis il n'y a pas longtemps, il y a un missionnaire qui me l'a remise. Et effectivement, il y a la signature de mon grand-père dedans, c'est bien lui, il n'y a pas de doute, hein, c'est lui. À mon avis, ils ont respecté ce côté religieux, parce qu'une toute petite Bible, mais minuscule, toute petite, et ce fameux mouchoir de Gaston Monnerville. Gaston Monnerville, il avait donné le mouchoir parce qu'il voyait qu'il avait une goutonnée. Il a eu toujours une goutonnée du temps du bagne, hein, parce qu'on n'était pas soigné en fait.
Thank you. proche de vous, partout, pour vous, Radion, au cœur de la Bourgogne.
Votre grand-père Guillaume Sesnec meurt à 76 ans le 13 février 1954. Il dit à votre maman, à sa fille,
Maman,
on m'a fait trop de mal. Alors, il faut dire aussi que
il parle de sa
votre
mère,
grand-père, ouais. On a peut-être cherché aussi à l'éliminer. Je pense à cette fameuse camionnette qui l'a renversée, parce que c'est quand même les
Manater
suites de cet accident
plainte.
Qui a
Robert Manater avait porté plainte, et la presse à l'époque parlait tous d'assassinat, et même dans les conférences actuelles, beaucoup de gens en parlent toujours de ça. C'est vrai que c'est très mystérieux, cette mort. Moi, je pense qu'il a été assassiné. Mais c'est difficile de l'affirmer, parce que vous savez, il restait 3 mois dans le coma. Et est-ce que le fait de l'éliminer, ça tuait l'affaire définitivement? Vous savez, le jour de la mort de mon grand-père, que je n'ai pas vécu, puisqu'on m'a mis chez des voisins, on m'a caché sa mort pendant 5 ans. Pendant 3 jours, et je suis resté à jouer parce qu'on m'a caché. Mais j'ai eu une image furtive quand même. Il neigeait ce jour-là. Le 13 février 54, il neigeait, enfin, le 16 plutôt, parce que le temps qu'il fasse le mettre en bière, il neigeait, et le titre de François, qui était le grand journal de l'époque, 2 millions d'exemplaires à l'époque, hein, un ou 2 millions, c'était le titre, sur 5 colonnes, c'était un linceul blanc pour Guillaume Sesnec. Et c'est vrai que tout Paris était blanc, l'enterrement était extraordinaire. Moi, je n'ai pas vécu, puisque j'étais trop petit. On a voulu me cacher, parce qu'en fait...
Mais pourquoi vous êtes-on caché?
À mon avis, c'est ce que dit ma sœur, ce que m'ont dit ma mère, c'est que probablement... moi, j'ai un souvenir de mon grand-père, bien sûr, parce que 7 ans, on a des souvenirs. En plus, j'étais toujours avec lui. Hein. C'est qu'on avait probablement peur que je rechute dans mon histoire de parole. Parce que j'ai retrouvé la parole peu de temps avant. Petit à petit, j'ai eu de mon enfant qui revenait, vous voyez. J'ai eu peur d'un chien, ou je ne sais pas ce qu'on m'a raconté. Une connerie, enfin, une bêtise. et la parole est revenue. Et donc, à 5 ans et demi, exactement. Et donc, pendant 1 an et demi, en gros, je reprenais des mots. Et alors, la mort de mon grand-père, on a eu peur que peut-être... alors, on m'a fait des... À mon avis, c'est les seuls faux en écriture dans l'affaire Sesnec. C'est que je n'ai pas de mémoire, mais j'ai cru que mon grand-père, hein, je me rappelle de ça, qui était en sanatorium au bord de la mer. Et chaque fois, je me demandais quand est-ce qu'il allait revenir. On me racontait des beaux baratins. J'ai dû recevoir une ou deux cartes postales écrites par ma mère pour me faire croire que c'était mon grand-père qui m'appelait Nini. Hein. Excusez-moi, ça fait un peu ridicule, mais il m'appelait Nini. Et moi, j'avais qu'une hâte que mon parrain revienne. C'était le seul homme de la famille, en plus.
Donc, votre grand-père repose en Bretagne?
Oui, à Plomodien, oui.
Et
avec
sur
ma mère,
le marbre de la tombe de votre grand-père, vous avez volontairement laissé un blanc que l'on puisse y faire graver un jour, réhabilité bleu, et on attend la date.
Oui. Alors, je suis certain, vraiment, c'est pas une parole comme ça. Mon grand-père va être réhabilité. J'en suis certain. C'est pas une question de conviction.
Donc en fait, cette année, 2011, en fait, le cinquième, un triste anniversaire, c'est le cinquième anniversaire, en fait, du refus de la réhabilitation
de
votre grand-père par la cour de révision. Et en fait, ça s'est joué à une courte majorité.
À deux voix.
Et alors, Denis Sesnec, vous êtes aujourd'hui toujours pas serein, finalement?
J'ai retiré ma plainte à la Cour européenne, parce que j'avais peur que, comme ils jugeaient que sur la forme et pas sur le fond.
Et que pouvez-vous faire maintenant?
Les députés et sénateurs unanimes, hein, droite-gauche, ils veulent rechanger la loi Sesnec, parce qu'elle n'a pas été appliquée. La justice française a cette particularité qu'elle n'a jamais reconnu une erreur de son histoire. Dreyfus est une cour militaire, vous l'avez dit au début. Alors la sérénité, c'est sûr que j'essaye de l'acquérir, mais si j'avais gagné il y a 15 ans, ma mère était encore vivante, une quinzaine d'années, j'aurais pu tourner la page et penser à autre chose, à ma propre vie. Mais les Américains ont dit que j'avais perdu à moins de 3 mètres du sommet de l'Everest. Ce qui est, en reprenant la même métaphore, même si je suis redescendu dans la vallée ou dans la plaine, j'en sais rien, je ne peux pas m'empêcher de me dire, je ne suis pas alpiniste, hein, mais je me dis, j'ai pas vaincu cette montagne quand même. Alors la sérénité, et puis le combat que ma famille, que moi-même je mène, c'est un combat qui sert à beaucoup d'autres aussi. Vous savez, l'affaire d'Outreau, les disparus de Lyon, ça ne serait pas sorti si je n'avais pas été là.
Et le gendarme Jean-Bert?
Et Jean-Bert, oui, qui est venu chez moi.
Il est venu vous voir.
Et il est venu
chez moi. Désespéré un peu
par
l'incompétence.
Quand on m'a dit qu'il s'est suicidé l'année d'après, j'étais le premier à dire « je n'y crois pas ». il a été assassiné. D'ailleurs, entre nous, vous avez vu qu'on a exhumé le corps et maintenant on m'a donné raison. Une balle dans la tempe, une dans la bouche. Il range son fusil et il perd une douille, excusez-moi, mais. Et puis pas d'autopsie.
Oui, c'est un peu comme le suicide de Stavisky.
Oui, oui, ça fait un peu gros. Hein. Puis un suicide, c'est malheureux à dire, mais un suicide, à moins d'être très très vieux, et encore, je ne suis même pas sûr, il y a toujours autopsie. Si ce n'est que pour savoir légalement ce qui s'est passé. Pour vérifier que le type s'est empoisonné ou s'est pendu, j'en sais rien. Un suicide. Un gendarme qui se tire deux balles, une dans la tempe, une dans la bouche, et range son fusil et perd une douille, ça commence à bien faire. On a dénoncé à France Justice ce fait-là. Entre autres, ben, vous savez qu'on a exhumé le corps et maintenant c'est avéré que Jeanbert a été assassiné. Et maintenant on essaye de dénigrer le fils, la fille qui continue le combat parce que au mois de décembre, je le signale en passant, pendant les fêtes, la justice a remis en cause le fait qu'il a été assassiné. Il reparle de suicide. C'est comme Boulin. C'est comme d'autres affaires. Je ne dis pas que toutes sont des combines, mais je note une chose, c'est que Fabien Boulin fait partie de mon ASSOC d'ailleurs. C'est des morts étranges quand même. Il y a beaucoup de morts étranges. Je ne dis pas qu'elles le sont toutes, mais il y a beaucoup de morts étranges.
Denis Cesnec, à travers l'association France Justice que vous avez créée en 1995,
oui, c'est oui. C'était pour Cesnec au départ.
Vous avez bien sûr regroupé autour de vous, fédéré autour de vous différentes personnes qui ont eu maille à partir avec une justice
bancale. Oui, bancale, oui, oui, on va dire bancale.
Patrick Dils, c'est un garçon qui s'est complètement remis de 15 ans
non,
de prison.
Ah non, non, on ne se remet pas. Non. 15 ans, et puis les autres, ils ont fait 3 ans et 15 jours, enfin 3 ans et demi. Les Outreau, par exemple, ils sont traumatisés à vie. Je donnerai pas de nom, hein, parce que je respectais leur vie privée, mais il y a deux Outreau, par exemple, qui m'ont fait la confidence, parce qu'à moi, ils me disent tout, hein, dont l'enquête, la première enquête, les gendarmes se sont fait un plaisir de leur montrer qu'ils étaient cocus. Vous comprenez pourquoi ? Il y en a certains qui le vivent très très mal. Si vous êtes mêlé à une affaire criminelle, même s'il y a des excuses parce que c'est pas vous, vous êtes hors de cause, ben l'enquête révèle que votre belle-sœur vous aimait pas, vous révèle plein de choses, elle vous révèle peut-être que vous étiez que votre femme vous trompait depuis 2 ans. Vous croyez que votre ménage va en survivre à ça ? C'est une enquête, les gens ne le savent pas, ça, mais les enquêtes c'est terrible. Alors je dis pas qu'il faut faille pas en faire, mais il faut voir que c'est fait. Par exemple, regardez, je reviens sur pas Outreau. Il n'y a pas qu'Outreau, hein, mais il y a d'autres affaires. Mais il y a une obligation par la loi de faire un signalement quand un enfant accuse un adulte. La parole d'un enfant, ce n'est pas sacré. Vous savez que c'est. Il faut en tenir compte, mais c'est pas. Surtout qu'ils sont interrogés qu'une fois maintenant, avec une caméra, vous savez, etc. Puis c'est une femme, une fliquette qui interroge, qui n'est pas forcément une psy, hein, mais c'est mieux qu'un gros balourd.
Bon. Enfin, les psys, on peut aussi
mettre
en question l'efficacité des.
Mais oui,
des
voilà. Travail, hein. Absolument, oui. Oh, non, vous voyez, c'est loin d'être parfait ce que je dis. Hein. Mais un enfant, c'est pas forcément lui qui a toujours raison. Il y a des fois, ils inventent. Eh bien, Outreau, ça a au moins montré que il y a des enfants, il y en a un notamment, ça a été facile, ça m'a facilité la tâche pour le dénoncer avec Yves Calvi sur Europe 1 en direct, c'est quand une experte, qui s'en est pas remise d'ailleurs, avait décrit qu'il y avait un petit garçon qui avait été sodomisé par une baguette de pain. Sauf que j'ai démontré que l'enfant n'était même pas né. Vous vous rendez compte ? Mais encore, c'est presque une forme de chance d'avoir des trucs aussi absurdes. Vous rappelez dans l'affaire Outreau, le handicapé physique qui me montrait 4 à 4 les marches, il mettait 2 heures à s'habiller, a dit sa mère. Un handicapé mental, et physique même, qui était alité toute la journée, il montait 4 à 4, il violait des enfants aux 4 étages au-dessus, sans ascenseur. Là, je mets en cause certains journalistes qui auraient pu vérifier ces absurdités. Dans la contre-enquête ordonné par les députés de droite et de gauche, les 40, là, vous savez, de la commission d'Outreau, ils ont demandé à Dominique Veil, le prêtre, la couleur des yeux de Burgot. Il en était incapable. Il n'a jamais vu son regard.
Et le juge Burgot, puisque vous en parlez.
Ah ben, il y a une chose qui me choque, c'est pas le juge. Moi, je ne le mets pas en cause. J'ai été interviewé là-dessus. Hein. Je mets les 43 magistrats, parce qu'il y a la chambre d'accusation qui a suivi. Burgot, le seul truc que je lui reprocherais peut-être, c'est qu'il avait 27 ans ou 28 ans à l'époque, et il a eu cette prétention, de continuer l'enquête d'une affaire qui devenait énorme. Il aurait pu prendre un autre juge avec lui, d'autres. Il a voulu rester seul. Alors maintenant, une chose que je ne suis pas gentil, que je voulais dire pour la magistrature, c'est que depuis quelques années, je ne sais plus, c'est 4-5 ans, il y a une possibilité, une loi ou un règlement, je ne sais plus exactement, qui permet maintenant aux magistrats de se s'attribuer eux-mêmes les primes qui sont distribuées. Avant, c'était le garde des Sceaux qui les donnait. Maintenant, c'est eux. Vous savez la prime la plus élevée de France ? Le magistrat l'en donnait à Burgos. C'est une façon de vous dire « je vous emmerde ». C'est ça qui est choquant. L'Assemblée nationale, bien sûr, parce que les députés ont mis en cause, et les sénateurs ont mis en cause, droite-gauche, hein, ou trop, parce qu'ils ont dit « il y a des leçons à tirer ». L'opinion publique qui est peut-être en partie des magots, hein. Attention magistrat c'est pas facile, hein. Attention, hein. Attention magistrat c'est pas facile, je dis pas ça pour tous, moi je voudrais pas être magistrat, je serais un mauvais magistrat, surtout je serais un mauvais flic, j'ai un inspecteur la bavure, moi. Vous voyez que quelqu'un qui tape une petite vieille ou qui viole une gamine, je crois qu'il faudrait pas me le laisser seul entre les mains, je serais mauvais. Donc vous voyez, je serais un justicier, je serais pas forcément le meilleur réformeur de justice, que je prétends être un petit peu. Mais justicier, c'est pas bon non plus. Hein. On termine avec les cow-boys et vous pendez au premier arbre qui est venu, hein. c'est pas bon. Hein. On fait du mal à ma femme, peut-être que le type, je l'attendrai à la sortie de la prison. Je ne tirerai même pas des balles dans la tête, mais dans les genoux d'abord, vous voyez. Je serai un beau salopard. Mais ce n'est pas de la justice, ça. Je me vengerai. C'est différent. Et la peine de mort, vous voyez, même la peine de mort, je suis comme tout le monde, hein, faut pas croire. Moi, je serai pour, quand ça touche mes proches, mes amis, mais c'est de la vengeance, c'est ce que je viens de vous dire. Mais une société qui donne la peine de mort, il faut réfléchir. Si on prétend défendre civilisation, on doit donner l'exemple.
comme chaque mercredi soir sur Radion, c'est Wagon Livre, votre émission littéraire. Nous sommes ce soir, mercredi 23 novembre, en compagnie de Denis Seznec. En effet, le petit-fils de Guillaume Seznec est devant nos micros pour évoquer l'affaire qui envoya son grand-père au bagne en Guyane, l'occasion aussi d'évoquer les dysfonctionnements de la justice. Alors, Denis Seznec, il ne s'agit pas de confondre justice et vengeance.
Mais cela dit, moi je suis comme tout le monde. Moi, il faut pas. Je vous dis, c'est même pire. Je crois que quelqu'un qui ferait du mal à, ou un faible, je pourrais être méchant pour quelqu'un qui ferait du mal à un animal, vous voyez. Je pourrais être méchant. C'est pas bien ce que je dis là, mais je pourrais l'être.
Mais vous le dites.
Mais je le dis.
C'est un autre débat.
Dire que c'est pas facile à lutter contre l'injustice. C'est pas facile. Parce qu'on a, le sentiment de personnel un petit peu. Et puis en même temps, c'est ma prétention. C'est qu'en président font justice et avec mon combat, je veux que cette justice s'améliore. Elle sera jamais parfaite. Je sais que les policiers, c'est un métier très difficile. Je sais que le magistrat, c'est hyper difficile. Je le sais. Mais il faut qu'ils apprennent. Et ça, c'est mon principal combat. Il faut qu'ils apprennent à reconnaître leurs erreurs. Ils ne le font jamais. C'est ça qui n'est pas admissible. Qui peut croire? Prenez les médecins. Tout le monde a un médecin. Hein? Eh bien, qui peut croire qu'un médecin ne se trompe jamais? Tout le monde sait que ben, des fois il se trompe, il y a des fois il a des doutes. Derrière votre dos, si ça se trouve votre médecin, et je vous le souhaite, va téléphoner à son collègue qui est plus spécialiste, il va dire qu'est-ce que tu penses de ça? Il va se renseigner. Mais là, actuellement, on a une justice. Je suis à l'aise de le dire parce que beaucoup de magistrats le pensent, ça. Mais ils n'osent pas le dire parce qu'ils ont une carrière.
Il y a un corporatisme.
D'ailleurs, les deux seules déclarations contre la réhabilitation de mon grand-père, c'était les deux syndicats de magistrats. Ça j'ai du mal à l'avaler. Je vous dis de tête, hein, vous ne m'en voudrez pas, mais de tête, il y a le syndicat de la magistrature qui est en gros, on va dire, 30% plutôt à gauche, pour schématiser. Hein. Ils ont dit, heureusement qu'on n'a pas réhabilité Seznec, ça nous aurait mis dans l'obligation de reconnaître des erreurs judiciaires quasiment toutes les semaines. En gros, ils ont dit ça. Et l'USM, vous savez ce qu'ils ont dit? Alors maintenant, ils font tout le contraire, ils ont l'air très gentils avec moi, mais l'USM, ils ont déclaré, réhabiliter Seznec, c'eût été une désacralisation du jugement d'assises. Et, toutes les autres déclarations, même étrangères, toutes, il n'y a pas d'exception, tous étaient écœurés. Le Monde, le Figaro, Libé, le New York Times, tous. Les seuls qui réagissent contre, et une loi, la loi Seznec qui a prétendu faciliter les révisions. Je suis la conclusion d'un de mes avocats, Jean-Denis Bourdin, qui concerne le plan.
N'importe qui.
Dans Le Monde, il dit, pauvre justice, qui n'a même pas été capable de se saisir ce que la loi lui a accordé. Elle ne reconnaît. Vous croyez qu'elle est crédible, là, maintenant? Vous savez, là, je suis triste parce que mon grand-père n'a pas été réhabilité. Mais franchement, dans l'image de la justice, elle est catastrophique. Catastrophique. Mon grand-père, dans l'opinion, il est réhabilité dans l'opinion.
Je le pense, oui. Non. Le livre le fait vraiment très bien.
Oui. Non, mais Hossein a fait voter les gens. Vous avez les Suisses, Français. D'instinct, ils savent qu'il y a une... C'est même mon confort, c'est que c'est la seule affaire. On ne sait même pas s'il y a un crime. Alors, vous voyez, c'est encore pire. Puis, mon grand-père coupable, s'il y en a encore qui le pense, il refuse sa grâce au bagne. Ça serait un sadomaso. Hein, vraiment, il voudrait continuer à souffrir au bagne. Pensez bien qu'un faux innocent, il aurait accepté sa grâce tout de suite. Hein. Bon, moi, je trouve que cette justice, en tant que citoyen, je suis triste. Hein. Je suis triste parce que je trouve que cette justice, elle devrait être beaucoup plus forte, plus respectée. Parce qu'on en a besoin. Vous savez, la classe politique, de droite comme de gauche, la plupart me soutiennent, la quasi-totalité même. Mais je suis comme tout le monde, hein. Vous savez, la politique, ils sont un peu. Regardez ce qui se passe au Japon ou ailleurs. On a une confiance très limitée maintenant. Hein. Le G7, il ne décide plus rien, même le G20.
On ne va pas rentrer
dans
le détail. Oh, je pars.
En tout cas, je
rappelle le titre de vos livres. Donc, Nous les Seznec, toute l'affaire, aux éditions Robert Laffont. Donc, l'édition 2009, hein, l'édition revue augmentée. Il y a donc Seznec le bagne chez Robert Laffont. Oui. Et puis l'album.
Qui vient de sortir.
L'affaire Seznec en photo des assises au bagne, toujours chez Robert Laffont. Denis Seznec, merci. C'était un grand plaisir de pouvoir vous rencontrer.
Vu que je suis un passionné. Oui.
Et de vous entendre et d'expliquer cette affaire pour les auditrices et auditeurs de Radion. Merci, Denis Seznec.
Oui. Merci.
Merci, Denis. C'est très agréable.
Quelques informations culturelles avant de nous séparer. Ce vendredi 25 novembre, Bernard Guérin, Jacques Nicole, Alain Laporte et Alain Thomas racontent en mots et en images 12 jours à pied sur le chemin de l'écrivain Robert Louis Stevenson. L'entrée est libre et ce sera au Conservatoire de Tonnerre à partir de 20h. Ce vendredi 25 novembre, 20h au Conservatoire de Tonnerre. Ce vendredi également, vernissage à 18h de l'exposition Les grands cuisiniers du Moyen-Âge à la bibliothèque de Semur en Aussois, en collaboration avec la librairie L'Écritoire. À cette occasion, Dominique Thibault, illustratrice qui réside dans cette belle cité médiévale de Semur en Aussois, y dédicacera son livre, son dernier livre, une exposition. Donc les grands cuisiniers du Moyen-Âge, visibles à la bibliothèque de Semur-en-Auxois jusqu'au 16 décembre prochain. Et puis ce samedi 26 novembre, à l'abbaye Saint-Germain sera présenté l'ouvrage de Pontigny à Cerisy. Ce samedi 26 novembre encore, il s'en passe des choses dans Lyon. De 9h à 18h30 se tiendra un colloque consacré aux travailleurs ruraux de Lyon 1848-1939 à l'amphithéâtre de l'IUT en face d'Auxerre Expo. Les différents intervenants évoqueront les bûcherons de Puisay, les petits métiers dans la forêt d'Hôte, les ouvriers flotteurs de la vallée de Lyon ou alors la naissance de la coopérative viticole La Chablisienne, une manifestation organisée par Adiamos 89. Renseignements donc autour de ce colloque consacré aux travailleurs ruraux de Lyon, renseignements au 03 86 52 81 72, 03 86 52 81 72. Nous vous encourageons à découvrir l'exposition Colette qui a pour titre « Je vais écrire encore, il n'y a pas d'autre sort pour moi ». Il s'agit d'une exposition organisée par la Bibliothèque municipale d'Auxerre et Bernard Clavreuil, collectionneur. Une exposition qui prend en compte les années 1910-1954 de la vie de l'écrivain né à Saint-Sauveur en Puisay et c'est au cellier de l'abbaye Saint-Germain. Nous consacrerons d'ailleurs un numéro de Wagon Livre à cette exposition Colette. Nous recevrons d'ailleurs prochainement Françoise Duvernier, conservateur en chef de la Bibliothèque municipale d'Auxerre, pour mettre en lumière cette exposition Colette, exposition Colette ouverte au public jusqu'au 8 janvier 2012. Mardi 29 novembre prochain, l'association Lire en pays autunois organise une conférence débat à l'occasion de la venue à Autun de Benjamin Stora qui évoquera les printemps arabes. C'est à l'Hexagone, salle Gobetti à Autun. Pour ma part, je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 21h. Je recevrai Emmanuel Jouet, docteur en sciences de l'éducation. Emmanuel Jouet est l'auteur d'un livre intitulé « La révolte des enfants des Vermiraux » paru aux éditions de l'Œil d'Or. Nous reviendrons sur le martyr d'enfants placé dans cette institution spécialisée située à Carré-les-Tombes dans Lyon. Des enfants qui se révoltèrent contre leurs conditions de vie et une révolte qui déboucha sur un procès qui se tint en juillet 1910 au tribunal d'Avallon. Rendez-vous donc à bord de Wagon Livre mercredi 30 novembre prochain, toujours à partir de 21h sur Radion. Excellente soirée à toutes et à tous. Merci de votre fidélité. Au revoir. Thank you.